Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Clément Daté, réalisation Émilie Vanatte. Autour de moi, ce soir, Elisabeth Philippe, Philippe Chevillier et Florent Georgesco. Pour parler ensemble de Une chose sérieuse de Gaël Obiegli chez Vertical. Nous parlerons également de Bacchante de Céline Minard chez Rivage, de Je suis né quelque part, où peut-on se sentir chez soi de Daniel Schreiber chez Autrement. Et puis un coup de cœur donné ce soir par Philippe Chevillier à Les femmes de Hot Spring Mountain de Robin MacArthur chez Albin Michel. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour découvrir l'exposition Courbet dessinateur qui a lieu jusqu'au 29 avril au musée Courbet à Ornans. Alors, est-ce que tout ne sera qu'amour ce soir, dans ce jour de Saint-Valentin? Alors, c'est peu probable. L'amour
qu'est-ce
des
que
livres.
L'amour?
L'amour, ça. Florent Georgesco a déjà pris la parole. Arrivera-t-on à l'arrêter ce soir? Bon, ça l'amour des livres, en tout cas, il est bien présent. Peut-être pas toujours pour les mêmes, on va bien le voir. On va commencer donc avec Une chose sérieuse. C'est le titre de ce livre de Gaël Obiegli qui paraît chez Vertical, dans lequel on va rencontrer Daniel, qui pourrait s'estimer heureux d'avoir été accueilli dans une communauté survivaliste financée par une richissime mécène. Bon, il va vite comprendre qu'il est non seulement le scribe, celui qui doit écrire la biographie de cette dame, mais il est aussi le cobaye de celle-ci, aux intentions pas forcément louables. Enfin, en tout cas, on va le comprendre, ce livre est son journal de bord clandestin, écrit au bord de toutes les catastrophes. Il est rare que j'adresse la parole aux autres. Cependant, je réponds volontiers. À cet égard, je me suis étonné dernièrement, étonné de moi-même. Il est évident que l'âge me rend meilleur. Si cette tendance perdure, la vieillesse fera de moi un saint homme. Il m'est arrivé quelque chose de terrifiant lors d'un mariage. Entrer dans les détails ne me paraît pas à propos, je préfère ne pas perdre le fil pour une fois. Je préfère ne pas faire le moindre commentaire, ne rien dire du mariage qui a été l'occasion de cette situation terrifiante que je n'ai pas trop mal géré dans le fond. Il y avait une femme, assise sur une chaise en fer forgé. Sa solitude et son calme contrastaient avec la volubilité des autres personnes qui étaient agglutinées contre la table où il y avait le champagne et les morceaux de pain demi-tartinés avec de la tapenade et dans des bols de toutes petites tomates. Je suis allé vers elle, mais vraiment, ce n'est pas dans mes habitudes de me montrer aussi ouvert. Je lui ai tendu la main, on s'est serré la main. Tout de suite, j'ai embrayé en lui disant mon prénom et mon nom et ma date de naissance et mon numéro de sécurité sociale que je connais par cœur depuis toujours comme beaucoup de choses. C'est un des rares avantages de mon handicap dont je ne tiens pas à parler. Elle a dit son prénom seulement. Elle n'était pas jeune, elle avait l'air géniale. On se regardait fixement, nous allions bien ensemble. Non pas à cause de nos habits qui n'étaient pas bien assortis, on allait bien ensemble en raison de nos visages qui se mariaient bien, il me semblait. Et puis à cause de la diction, d'un parler lent. Elle est iranienne, ça lui donne une excuse. Nous parlions en français. Comment j'ai su qu'elle était iranienne? J'anticipe ta question. C'est par son prénom que je l'ai su, un prénom que je n'avais jamais entendu nulle part. J'ai demandé quelle en était l'origine, et c'est de ça que notre conversation est partie du prénom qui nous a conduits en Iran. Je me suis assis à côté d'elle, nous avons commencé à parler. Elle ne faisait rien pour me séduire. Il n'y avait pas d'embarras de ce fait, elle m'était agréable, je la sentais loin. Cela peut-être parce qu'elle était seule et qu'elle tenait à sa solitude. Bon, Bon, voilà, Daniel s'exprime. Daniel, il arrive des drôles de choses. Et il en parle drôlement, Elisabeth Philippe.
Oui, on ne sait pas trop où Daniel nous emmène. En plus, Daniel interpelle le lecteur, il s'adresse à lui, il le tutoie. Donc, il nous tutoie. Très peu de lignes après l'extrait, vous venez de lire. Daniel dit comme ça, en passant, qu'il lui arrive de manger des gens. Donc là, on se demande vraiment où on a mis les pieds, mais c'est dit comme ça, nonchalamment. Donc, très, très étrange. On sent dans ce monologue, en forme de confession, quelque chose d'assez détraqué. Peut-être est-ce l'effet de la puce qui lui a été implantée dans le crâne, on ne sait pas. Gaël Obiegli a quand même le chic de trouver et d'élaborer des dispositifs narratifs qui en apparence paraissent très, très simples et finalement perturbent et déroutent grandement le lecteur. Donc vous l'avez dit Arnaud, Daniel, en fait c'est un ancien gardien de parking.
Notamment.
Daniel a eu énormément de vie et d'expérience. qui se retrouve donc dans cet ermitage survivaliste financier par cette milliardaire, c'est la femme la plus riche du monde, donc on imagine une espèce d'Ingrid Betancourt férue de biotechnologie et de post-humanisme, enfin c'est comme ça que je la voyais.
C'est une post-Ingrid
Betancourt.
Liliane,
oui.
J'ai dit Ingrid.
Oui, deux fois.
Donc je suis... Non. Liliane Betancourt, okay. Pardon, excusez-moi. ça a plus de sens. Bref, une milliardaire, en tout cas, qui finance de drôles d'expériences et qui a donc employé Daniel pour qu'il écrive ses mémoires. Mais Daniel n'est pas seul à vivre dans cet ermitage. Il y a d'autres parias, déviants, enfin c'est comme ça qu'ils sont présentés, qui ont rejoint les rangs de cette drôle de secte qui vit dans l'attente de la catastrophe. Et en fait, le projet de cette milliardaire, qui est nommée Chambray, mais dont le prénom est Donatienne, et à mon avis, ça a sa petite importance, son projet est donc de les entraîner à la survie en vue d'une catastrophe qui n'est jamais nommée. D'où l'aspect survivaliste du livre et de l'ermitage. Donc, elle tente de faire de ces pauvres hères des vainqueurs de la survie, je crois que c'est comme ça. À un moment, il y a une expression, c'est loser, d'en faire des gagnants de la survie. Et notamment, elle les affame, puis pendant 24 heures, puis jette des morceaux de viande et ils doivent se battre. Donc là, il y a un côté Hunger Games, mais matinée de Marquis de Sade. Hein. Donc je le disais, la milliardaire se prénomme Donatienne, donc on ne peut que penser à Donatien. Il y a ce côté sadique et surtout, en fait, au travers de ce monologue de Daniel qui raconte à la fois ses souvenirs et son présent dans cet ermitage, se dessine une forme de dystopie, de livre de science-fiction un peu beckettien, puisque ça ne passe que par la parole et l'expérience de lecture est assez étourdissante.
Après cette introduction, je reviens vers vous Elisabeth. Passons à Philippe Chevillé.
Alors moi, à la base, je suis pas trop emballé par les romans apocalyptiques, pré-apocalyptiques, post-apocalyptiques. Il y a des très bons, mais je me méfie toujours un peu. Et j'ai toujours un petit peu peur des romans trop formalistes. Et bon, la forme, on sent que c'est assez important chez l'auteur. Bon, c'est vrai que j'ai quand même été assez conquis par l'originalité quand même du récit, de la forme, ces contre-mémoires du héros qu'il fait le dimanche, alors qu'il est censé, le restant de la semaine, avec sa petite puce dans le cerveau, préparer les mémoires de cette milliardaire.
C'est le dimanche, c'est assez... jour de repos, il peut manger de la pizza et donc écrire ses livres,
absolument.
Son livre clandestin.
Absolument, et il a cette façon surtout de raconter qui fait qu'on est sans arrêt dans des vraies fausses digressions, des zigzags, qu'au moment où on pense que le récit va avancer, il recule. C'est vrai que c'est quand même assez savoureux, d'autant que quand apparaissent des images et des actions, elles sont souvent assez étonnantes et on est assez saisi. Certaines élégances du style, une forme d'humour que moi j'ai plutôt apprécié à certains moments. Et puis surtout sur le fond, ce qui est assez habile, c'est que on a l'impression que cette catastrophe, finalement, très vite, elle est déjà advenue, c'est le monde tel qu'il est. Et que cette façon virtuelle d'imaginer une communauté de survivants, c'est un jeu de pervers d'une milliardaire dans un monde qui est déjà complètement dingue. Donc voilà, c'est un livre qui finalement m'a un peu agacé par moments, mais qui m'a laissé quand même un peu un trouble, donc c'était pas déplaisant à lire. Je suis pas emballé quand même. Hein.
Emballé, Florent Georgescu.
Vous m'avez semblé comprendre. Non, pour des raisons comparables à la partie agacement de la description de Philippe. C'est-à-dire notamment, oui, je le rejoins sur sur les deux dimensions, le livre pré-apocalyptique, demi-apocalyptique, je ne sais, quelque chose de plus formel qui est de l'ordre du soliloque, de l'ordre de, enfin, tout est porté, doit être porté par une langue soliloquente, si je puis dire. On l'entendait d'ailleurs dans l'extrait que... Enfin, il définissait, il posait cette forme-là dès le début dans l'extrait que vous avez lu, Arnaud. Le problème est que il ne me paraît pas... Enfin, le livre n'incarne pas ce dispositif d'Onassienne, par exemple, qui pourrait être un beau personnage, est un personnage quasi absent, quasi abstrait en tout cas, qui n'a pas une vraie existence, de même que n'existe pas réellement le lieu. Enfin bref, elle ne joue pas le jeu de son roman de quasi-anticipation. Ce qui ne serait absolument pas un problème si derrière il y avait une langue qui avait la folie qu'elle prétend atteindre. Et à mon avis, elle ne l'atteint jamais ou que rarement. Et on reste comme ça un peu suspendu entre les deux possibilités du livre qui, pour moi, ne se réalisent jamais. La langue est assez terne quand même. Il y a une promesse de folie qui ne se développe pas, qui ne prend pas, qui n'enflamme pas le texte. À un moment, le narrateur dit... tout ce qui passe dans ma tête en une minute. Les images surgissent à mesure qu'elles disparaissent, elles se superposent, les phrases aussi, etc. C'est, à mon sens, dans ma lecture, une description de ce que Gaël Obiegdi aurait voulu que son livre soit, mais pas de ce que le livre est. On ne voit pas passer ces images superposées. Rien ne s'entrechoque, rien ne bouge réellement. Il y a une manière de poser les choses assez... froidement au fond et de manière encore une fois un peu abstraite et voilà, ne jouant ni le jeu du roman ni le jeu de la force de la langue et de la parole solitaire, je trouve qu'elle nous perd un peu et j'ai fini par, je dois le dire, pas mal m'ennuyer à la lire.
Vous reviendrez après, je vous en prie aussi, mon cher Florent.
Nous en prions.
Alors, je suis à peu près en désaccord sur tout, mais c'est pas très grave.
Mais je vous en prie.
Je vous aime, Florent, je sais que vous le savez.
C'est
bien
soir de l'avouer.
On va vous laisser.
Mais je vous aime, Elisabeth Philippe. Je vous aime.
On s'aime tous, c'est très simple.
Mais on n'est pas d'accord. D'abord, sur cette langue que vous trouvez terne, que moi je trouve belle. Et je pense pas que son ambition soit d'être folle. Je pense que on est peut-être dans le cerveau d'un malade, parce que moi je ne prends pas pour argent comptant ce que cet homme à l'esprit dérangé nous raconte. Moi, c'est un livre qui me fait me poser des questions assez régulièrement sur la véracité, la validité de ce que je lis. Enfin, donc il y a pour moi quand même pas mal d'écarts possibles entre ce qu'on lit et ce qu'on peut penser de ce qu'on est en train de lire. Il y a quand même des choses, certes, il y a un formalisme qui me plaît bien, comme par exemple, il y a une note en bas de page dans tout le livre, mais elle prend la moitié d'une page. Et tout d'un coup, ça fait rentrer autrement quelque chose qu'on pouvait soupçonner sur un des personnages. Donc, il y a quand même une part de jeu. Moi, je me suis laissé prendre au jeu, très simplement. Et je l'ai lu jusqu'au bout avec une sorte d'avidité de savoir, en fait, où est-ce qu'il allait nous emmener. Et comme j'en suis pas sûr, c'est ça qui m'intéresse en fait, Elisabeth Philippe.
Oui, c'est ça, il y a une dimension de jeu assez pervers avec le lecteur. Ce narrateur qui n'est donc pas très fiable va de façon assez perfide à l'encontre de ce qui suppose être les attentes de son lecteur. Donc à un moment, il est écrit, mais vous vouliez en savoir plus, et vraiment c'est le personnage de Chambray qui vous intéresse, c'est le personnage de la milliardaire. Ben non, moi je vais vous parler de Jenny. Jenny qui représente les instincts, l'animalité qu'il faudrait retrouver.
Mais Jenny aussi m'aurait intéressé.
Il ne vous a pas satisfait. Et ce jeu pervers, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut le lire aussi comme ça. L'écriture demeurant la seule poche de résistance, finalement, c'est sa seule poche de liberté pour ce personnage dans cet environnement où il est quand même asservi par la milliardaire. Il y a ce jeu de liberté qui se fait par l'écriture, puisque ce livre, même si c'est pas amené de façon très subtile, Philippe le disait très bien, la catastrophe, elle n'est pas à venir, elle est déjà là, et c'est une métaphore évidemment du système capitaliste. En tout cas, on peut le lire comme ça, cette dévoration. Lui ne se laisse pas dévorer, et grâce justement à l'écriture, qui est le seul, encore le domaine ou le lieu où il peut exercer sa liberté et même plier à sa prose, c'est écrit comme ça, celle oui. qui l'a servi.
Oui, mais ça c'est le dispositif, et c'est en quelque sorte la structure idéologique du livre, mais j'ai envie de lui dire en permanence, mais prends-la cette liberté, vas-y, exerce-la. Or, elle n'est pas pour moi exercée parce qu'il n'en tire rien. Et par ailleurs, je vais prendre justement l'exemple, vous parliez, Elisabeth, de Fanny.
Jenny,
pardon. On confond tout le monde ce soir, mais ce personnage pourrait tellement être passionnant. Ce jeu sur l'animalité, on ne sait pas très bien, on ne voit pas quelle forme elle a même. Et cela pourrait être passionnant, mais rien pour moi ne se passe avec elle. Il n'y a pas de mouvement dans ce personnage même dont on attend une ampleur, une espèce d'explosion à un moment
donné. Justement, je trouve que c'est intéressant, pardon, je laisserai la parole à Philippe, mais justement, la façon dont elle est court-circuitée, puisqu'elle est court-circuitée par cette note de bas de page. Donc là aussi, il y a quelque chose, une façon de déjouer les attentes.
De court-circuiter, on tue le livre. C'est pas intéressant en soi de se court-circuiter soi-même pour un livre.
Non, mais vous disiez qu'il ne se passait rien, mais il n'y a que du télescopage, justement, dans ce livre, par le fait d'accumulation d'images.
Non, ça creuse. Ça ne télescope pas, ce ne sont pas des choses pleines qui rentrent les unes dans les autres pour exploser, c'est quelque chose qui se creuse à mesure et perd de son intérêt, parce qu'en plus, pardon, mais vous évoquiez la question idéologique, en plus c'est très souligné, il y a quand même tout un discours, il est question à un moment de roman bourgeois, on voit tellement
mais on aime
de
bien
plus
quand ça creuse,
plus
non.
Non mais le problème c'est que ça se remplit d'idéologie là où ça creuse de
force.
C'est en permanence un discours sur la littérature.
La parole est à Philippe Chevillier.
Moi qui ai une position médiane sur ce
c'est merveilleux
roman.
La position médiane.
Ça va pas
hommage
durer.
À Alain Juppé. Absolument. Donc je trouve qu'il y a dans ce qui est intéressant souvent dans ce livre, c'est les faux départs. Il y a des moments qui sont assez fulgurants. Personnage d'abord que j'aime bien, c'est celui du narrateur, celui de Daniel, puisqu'il est c'est un peu zélig, il a plusieurs aspects, ce personnage d'homosexuel un peu flamboyant, la Cyril Collard, il y a quelque chose qui m'intéresse chez lui, et je voulais prendre comme exemple le point de départ de Jenny qui m'a un peu déçu en route, mais qui est assez étonnant, c'est le moment où il la rencontre quand elle est petite fille et qu'il la voit et qui tout d'un coup j'ai pris son petit visage entre mes mains qui était propre, sinon je ne l'aurais pas touché. J'ai pris son petit visage pour lui faire la bise. Mes lèvres se sont posées sur son front et alors j'y ai enfoncé mes dents.
C'est un des plus beaux passages du livre.
Ah ben voilà, on va s'arrêter là-dessus.
Il est
cette
au début,
parole positive.
La déception.
On va s'arrêter là. Non.
Il fallait quelque chose de passionnant.
Il fallait s'arrêter là. Cette phrase était magnifique. Une chose sérieuse de Gaël Obiegli. C'est un livre qui est paru aux éditions Vertical et à suivre dans la dispute bacchante de Céline Minard. Je suis né quelque part où peut-on se sentir chez soi de Nell Schreiber et un coup de cœur pour les femmes de Heart Spring Mountain de Robin MacArthur.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Alors depuis ses débuts en littérature, on sait que Céline Minard a le goût du genre. Elle a livré des romans de science-fiction, qui ne vont donc pas plaire à Philippe Chevillier, une sorte de manga médiéval, un western, une robinsonnade. Alors on connaissait par ailleurs les films de braquage, donc et voici que Céline Minard s'essaye au roman de braquage. Le livre s'intitule « Bacchante ». Ici, WC est la cave de garde la plus sécurisée de Hong Kong. Installée dans les anciens bunkers de l'armée anglaise, elle attire les collectionneurs depuis des années. Des Chinois, des Européens et des Américains avertis ont confié leur vin aux bons soins de M. Kutzer, ancien ambassadeur sud-africain, reconverti dans la gestion de la vitiniviculture. Ses talents de diplomate sont venus à bout de leur dernière réticence, essentiellement liée au climat de la baie. Le système de climatisation multizone dont il a équipé les 12 bunkers de son entreprise, à hauteur de 30 millions de dollars, assure une température constante de 13 à 13,5 degrés Celsius et un taux d'humidité compris entre 65 et 75%. Un éclairage ponctuel par un lampe à sodium basse pression et un système de sécurité dérivé du secteur bancaire ont convaincu les connaisseurs les plus sourcilleux. Des bunkers enterrés à plus de 20 mètres de profondeur ne laissent passer ni vibration, ni lumière naturelle. Les bouteilles vieillissent mieux dans un environnement physique optimal. Physique et fiscal. Grâce au mouvement de stock rapide et discret, aux clubs privés et aux soirées à thème réservées aux membres Gold et Platinum, la clientèle d'Ethan Kotzer a très vite dépassé la sphère de ses contacts personnels. En 10 ans, il a fait de si belles et fructueuses rencontres que la valeur de son stock est estimée à 350 millions de dollars. Et jusque-là, il s'en est félicité. Ce sentiment l'a quitté depuis 61 heures et a laissé un grand vide dans son esprit. Bacchante de Céline Minard, dont je viens de lire un extrait. Alors on voit le lieu du crime, sauf que comme on l'a compris, ce lieu, ce bunker et ces bunkers infranchissables, eh ben, ils sont occupés. On ne sait pas trop par qui au départ, il faut bien le dire. Philippe Chevillier.
Alors oui, c'est un peu une histoire de chambre close dans un chai. J'ai trouvé... Moi, j'aime bien les romans de genre. Par exemple, il y a Martin Suter qui avait inventé ce détective gentleman cambrioleur qui s'appelle Holmen, l'auteur d'Éléphant, hein, qu'on aime bien.
Et
ces romans me réjouissent à chaque fois parce qu'ils sont vraiment... Ils y vont à fond. Bon, voilà. J'ai trouvé que ce roman de Céline Minard était un peu court à tout point de vue. Alors, il est court, il fait 106 pages. Je crois que c'est le bon chiffre.
Je vérifie.
Mais je le trouve court et un peu vain sans faire de mauvais jeu de mots. Parce que... Ça y est, il est fait. Je trouve que le récit du braquage...
On est en train de perdre Elisabeth Philippe, hein, qui n'a pas fini de rire à cette énorme blague.
Je pense que le récit du braquage est bien tenu. Il y a la fantaisie qu'il faut. L'histoire de la chambre close est bien résolue et d'une façon assez amusante. Et puis, on a un trio de braqueuses qui sont quand même assez étonnantes. Alors, c'est inspiré d'un film de braquage et aussi des bacchantes de Ripide, hein, puisqu'on a Dionysos, le vin et ses filles.
C'est pour ça ce titre alors.
Et ses filles furieuses.
C'est nous, ça. Ah, un d'accord, bacchante.
Donc voilà, les trois personnages qui sont la clown. Alors déjà, quand il y a des clowns, moi j'aime pas trop quand il y a des clowns dans les...
Vous avez peur des clowns ?
J'ai un peu peur des clowns, mais il y en a dans les films de braquage ou dans les thrillers. Busy la clown, la brune qui est très glamour, et puis une séductrice aussi, la bombe qui elle est un agent secret israélien, si je ne m'abuse. Donc voilà, on va avoir ce récit très très
bref. Plus compliqué que ça. Bon, mais c'est bien parce que vous n'avez pas tout raconté de toute façon.
Non, parce que d'habitude je raconte. On va pas mettre.
Ouais, bah là vous en avez déjà dit beaucoup.
On va pas mettre ce braquage sur le dos du Mossad. Quand même. Non, c'est une ex, je crois.
Voilà, une ex. Et donc on est à la fois confronté donc à un récit qui est très tenu avec tout ce qu'on peut imaginer, le typhon qui menace derrière, et puis ce côté complètement absurde de ce braquage dont on ne comprend pas tout à fait la signification et où finalement le propriétaire du chai se retrouve à vouloir parlementer et va être...
Il faut que je vous arrête, sinon vous allez tout raconter, Philippe Chevillier.
Ah bah 92.
Non, je ne veux pas, justement.
Bon. Mais disons que la dilution du personnage du caviste est un des moments qui est assez intéressant. Et puis il y a le rat que
la
je trouve
caviste,
très bien.
La dilution du caviste, c'est pas
stop.
Mal.
Stop. Il y a un rat. Philippe,
qui
bien, vous allez, vous voulez pas lire la dernière page non plus, tant que vous y êtes.
106 pages, je crois que je l'ai.
Comment on y va?
Donc voilà, tout ça pour résumer, sans raconter l'histoire, je trouve que l'exercice de style, l'exercice de genre l'emporte un peu sur la fable philosophique et un peu explosive, que mettre des femmes braqueuses, ça donne évidemment une dimension, et puis une chef de police braqueuse, c'est aussi intéressant, mais c'est une petite chose, quoi. J'ai l'impression d'avoir lu quelque chose de distrayant, mais qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable.
Florent Georgesco, Bacchante.
Oui, je me disais, Philippe a fait la liste complète des éléments qui composent ce livre, et j'avais un peu le sentiment, en le lisant comme en vous écoutant, parce que vous le résumiez bien, que vous avez d'avoir une sorte de jeu d'échecs sur lequel on aurait posé les pièces dans un ordre extrêmement précis, et puis on se pose près du jeu, on regarde, et il ne bouge pas, personne ne joue. Il y a vraiment cet aspect totalement immobile du livre, tout est posé là, voilà. Vous avez tout dit. Rien ne se passe réellement entre tout cela. Il y a les meilleurs vins du monde. Les héroïnes semblent en boire un peu. Tout cela ne fait pas beaucoup d'effet. Il y a un paragraphe un peu lyrique sur le vin. C'est tout. Rien ne se passe. On attend. Et en fait, plus on avance et plus on s'aperçoit qu'il ne se passera rien, qu'aucune vie ne va prendre à travers tous ces personnages, qui sont pourtant, elles marquent de manière très, elles soulignent avec beaucoup, beaucoup de d'épaisseur l'aspect, disons, anarchiste, scintillant de ces personnages, le clown, etc. Mais tout ça ne bouge pas, ce sont des pièces immobiles sur l'échiquier. Et ce qui ressort, c'est le schéma dans lequel elle a disposé tous ces éléments. Et là, écoutez, je vais rejoindre ce que je n'ai guère développé sur le livre précédent, pardonnez-moi. Un aspect qui se retrouve dans les deux.
Soyez synthétique.
Je vais l'être extrêmement, vous allez être épaté.
Vous n'avez pas développé tout à l'heure dans les longues minutes que vous avez empruntées.
Là, il y avait d'autres choses à dire aussi, mais là, il n'y a pas tellement autre chose à dire.
Allez-y,
que
Laurent.
Le fait qu'on est quand même devant de la pure parabole politique et que c'est d'une pauvreté inouïe. Et ça finit par me donner à penser, et d'autres livres souvent me donnent ça à penser, qu'il y a une sorte de puérilité politique d'une partie de la littérature française qui est absolument lassante. Parce que vraiment, c'est quoi ça? C'est voilà, il y a un riche, il est méchant, on va l'attaquer, on va boire son vin parce que c'est pas bien, on va essayer de le torturer un peu, on le menace de mort. Qu'y a-t-il d'autre là-dedans que ce petit dispositif idéologique qui est d'une pauvreté, d'un simplisme à faire passer Thomas Guénolé pour un type subtil, quoi, vous voyez. C'est tellement pauvre, c'est tellement
pauvre,
et ce
point.
N'est tellement que ça.
Je ne suis pas certaine qu'il y ait la moindre prétention politique dans ce livre, à vrai dire. Je le lis vraiment comme une récréation. On a le sentiment que Céline Nard a pris beaucoup de plaisir à écrire ce petit texte, mais en le lisant, c'est assez goulayant, mais ça n'est jamais enivrant, et en le lisant, on a plutôt l'impression d'une super production hollywoodienne qui aurait manqué de budget en cours de route. Mm-hmm. Donc il y a ce typhon qui promet une explosion, et finalement ça fait pchit. Il y a quelque chose effectivement assez figé. Et c'est dommage parce que Céline Minard nous a quand même habitués à des livres assez exigeants, qu'elle poussait très très loin. Et là, même dans sa langue, on ne retrouve pas les audaces qui pouvaient être les siennes dans le précédent livre. L'exigence formelle, enfin tout ça a un peu disparu. Au départ, on pouvait penser, dans ce côté un peu récréatif, divertissant, qu'elle pousserait peut-être plus loin le jeu sur le genre. Et là, je parle du genre comme identité, puisqu'effectivement, ce qui déroute un peu les policiers au début du livre, c'est de voir un escarpin sortir du bunker. Donc,
avec des interrogations sur le genre.
Sur le genre, et c'est assez amusant. Mais ça fait vite
Ça s'arrête assez vite.
Donc c'est dommage parce que voilà, il n'en reste pas grand chose.
Mais bon. Justement, on ne peut que s'interroger sur la raison d'être même de ce texte. Et franchement, il n'y a rien d'autre à trouver là-dedans qu'une métaphore politique.
Mais juste quand même à ce stade de l'émission, nos auditrices, auditeurs, mais pourquoi ils parlent d'un livre que personne n'a aimé.
C'est une très bonne question.
Eh bien voilà, parce que ça c'est la cuisine. Hein. On devait parler d'un autre livre ce soir, et pour des raisons de logique et de cohérence éditoriale, un autre livre
d'un auteur. Qui sont à l'honneur de cette chaîne.
D'un auteur dont on a beaucoup entendu parler cette semaine sur France Culture, on s'est dit, bon, il ne faudrait pas qu'on parle encore de ce livre-là, choisissons-en un autre. Et moi j'avoue que je n'avais pas encore lu ce livre de Céline Minard, dont j'ai lu tous les livres avec le plus souvent un grand plaisir, grand intérêt, une forme comme ça de jubilation à suivre ces aventures. Alors avec des bonheurs que j'ai trouvé différents, mais enfin il y a quelques-uns de ces livres qui sont vraiment de très bons livres. Et donc j'ai lu ces Bacchantes. Alors on va dire que ça nous prend pas beaucoup de temps non plus, ce qui est plutôt pour
ce,
qui est un avantage au-delà du fait qu'on a dû reprogrammer cette émission dans l'urgence. Mais non, moi en fait le plus grand, je vais rajouter un défaut, du coup j'étais parti pour en dire du bien, mince. Vous avez compris la fin, vous, sans en parler? Vous avez compris ce qui se passe?
Non,
c'est pas très clair.
C'est quand même bon, d'accord, c'est pas juste moi alors. Non, mais ce qui est quand même aussi un problème problématique quand même.
Elle a un vrai problème dans concret dans le récit de l'action, dans d'autres passages du livre.
Ce qui n'est pas simple, hein, mais voilà, d'autres y réussissent.
Oui.
Et c'est vrai que du coup, on quand même forcément dans un film, un livre de braquage, ça tend vers s'échapperont-ils, seront-ils pris, etc. Et donc le livre va vers ça très logiquement et promet une fin assez haletante, sauf que faute d'image, faute de croquis, faute de schéma.
C'est assez peu visuel. Il y a une scène au tout début quand on sort une bouteille du bunker.
Oui, on comprend pas d'où ça vient, où est-ce qu'on est.
Elle n'arrive pas à spatialiser en quelque sorte son récit. On ne sait pas où sont les gestes, où ils prennent place. Et à la fin, ça devient catastrophique.
Mais au-delà de ça, moi, je crois que vraiment la vision politique, je suis pas sûr. Enfin, c'est du niveau, et c'est pas méchant non plus, de La Casa del Papel. Et moi, je pense que si ce texte sort.
Mais c'est vraiment ça.
Si ce texte sort, c'est sans doute parce que voilà, peut-être que l'éditeur s'est dit bah il y a un truc en ce moment sur des braqueurs un peu politisés, donc allons-y. Je sais pas, Philippe Chevillé.
Gilet jaune au clou. Je pense qu'il y a effectivement une petite connotation politique, mais c'est pas l'essentiel. C'est vrai que c'est plutôt le genre pour le genre. Et je regrette deux choses, comme Elisabeth qui n'ait pas de Typhon, et je me dis que ça aurait peut-être été meilleur.
Le Typhon, c'est Potarbourg.
Oui, mais qu'on l'ait pas à la fin. Qu'on l'ait à peine amorcé. Et puis, s'il y avait eu un chat dans le chai, ça aurait peut-être tout changé. Et voilà.
Un chat dans le chai. Très bien,
avec Laura.
Bon, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je pense que Philippe a passé trop de temps dans le chai. Non, la seule chose, peut-être, à un moment, je me suis demandé si... Parce qu'elle ne pousse effectivement pas très loin, cette histoire de genre, et là, encore une fois, identité de genre. Mais il y a quand même... Je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de braquer en tant que femme un certain genre littéraire, ce qu'elle s'emploie à faire depuis toujours. D'autant que ces braqueuses, parmi ces braqueuses, il y en a une qui s'appelle Calamity Ginevra Payne.
Ce qui nous rappelle.
Et alors, moi, ça m'a fait penser à Gina Payne. Alors, je me suis dit, il y a peut-être un côté Guerilla Girls aussi. Enfin, je suis partie
très loin.
Et Calamity
Jane, qui est une héroïne de Céline Millard, d'un précédent livre.
Vous voyez que toutes les pièces sur l'échiquier sont des pièces politiques.
Ça aurait été intéressant si elle développait ça, cet aspect-là.
Oui, mais on est bien d'accord, sauf que ça n'a aucun intérêt.
Et pareil, je ne comprends pas pourquoi Kutzer s'appelle Kutzer. Il est sud-africain, donc je pense à Kutzer.
Ben oui.
Mais
qu'est-ce que Kutzer lui a fait?
À moins qu'il incarne la figure de l'écrivain mâle et que dans ce cas-là, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a cette dimension-là
dans le livre? Je vous dis que tout est uniquement codé sur le plan idéologique.
Mais ça serait intéressant, plus que le méchant capitaliste collectionneur de vin.
Sauf que c'est là aussi d'une pauvreté sans nom. Ben oui, mais ça ne l'est pas.
Voilà. Philippe Chevillé, avant qu'il soit moins vin, je vous donne la parole.
Voilà, je tenais à dire que l'histoire d'abord du chat, c'est par rapport au rat, on a bien compris.
Bien sûr,
voilà. Ceux qui liront le livre comprendront.
Mais s'ils n'ont pas compris avec tous les indices que vous avez donnés.
Ah non, je n'ai pas tout donné.
Vous avez lu le livre intégralement à nos auditeurs, vous en êtes
à peu près, oui.
C'est vrai. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est que dans ces personnages féminins, il y en a plusieurs. Il y a aussi la chef de police qui s'appelle Jackie Tran, comme Jackie Chan. Etc. C'est vrai qu'elle manque comme d'un petit quelque chose de densité qui ferait que la chef charge justement féministe serait plus forte et plus
elle manque d'un petit quelque chose, vous êtes bien gentil.
Ou alors
ça s'appelle un livre, ce petit quelque chose.
Mais en l'occurrence, c'est peut-être une énorme blague que nous fait Céline
Minard.
Oui, mais pas
drôle, vous savez, c'est très très sinistre les blagues, pas drôle.
Ah, Florent Georgesco a décidé.
C'est la Saint-Valentin, ça. Beaucoup d'amour.
Il est encore plus amour que
l'amour
d'habitude.
L'amour ruisselle de Florent
Je dissimule mes amours, voilà.
Bon, arrêtons-nous là. Concernant Bacchante de Céline Minard, publié chez Rivage. C'est l'heure du coup de cœur de Philippe Chevillé.
Oui, avant, c'était pas le coup de cœur.
Non, c'est net, en effet. Pas vraiment. Quel jeu de mots va-t-il avoir trouvé?
Oh, il a épuisé.
Quelle phrase a-t-il polie? patiemment tout au long de la nuit pour nous parler de Les femmes de Hot Spring Mountain de Robin MacArthur, un livre publié chez Albin Michel, dont la traduction est assurée par
France Camus Pichon.
France Camus Pichon. Signe de qualité déjà, gage de qualité. Alors, de quoi s'agit-il ?
Robin MacArthur a sorti déjà un livre de nouvelles qui était très beau, Le cœur sauvage, qui se passait dans la même région du Vermont où se situe le livre. Elle est aussi membre d'un groupe de folk, enfin un groupe avec son mari qui s'appelle Red Hat The Ticker, qui est pas mal, j'ai écouté deux chansons avant de venir. Elle est passée. Elle est passée de ces nouvelles qui étaient d'ailleurs plus ou moins liées entre elles parce que c'est des personnages qui se retrouvaient. À ce roman qui se passe donc dans cette région boisée du Vermont. Et l'histoire commence avec l'ouragan de 2011, l'ouragan Irène qui s'est abattu sur le Vermont. Et dans cet ouragan, sa mère, qui est une junkie et qui vit dans la région, dans la ville, va disparaître. Et donc, la mère de l'héroïne, pardon, qui s'appelle Vel et qui est barmaid à la Nouvelle-Orléans, va donc revenir dans ce pays qu'elle avait voulu quitter parce qu'elle voulait vivre sa vie ailleurs. Et elle va retrouver donc des personnages qui sont une vieille dame de sa famille, une ex-hippie qui s'est installée dans une maison à côté, et toute une série de personnages. Et de cette façon, elle va remonter ses origines qui nous remonteront même jusqu'à des origines indiennes. Alors l'intérêt, c'est qu'on se retrouve finalement avec un livre qui change un petit peu la vision de l'Americana, parce que là, on est un vrai livre de femmes. C'est-à-dire que les personnages, ils sont tous passionnants. Toutes ces femmes sont passionnantes et les hommes sont vraiment des seconds rôles. Ils sont intéressants, mais ce sont des seconds rôles. Donc c'est une vision vraiment différente qui remonte en même temps très loin. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il est aussi dans cette région centrée sur cette forêt, mais il s'ouvre au monde. C'est-à-dire qu'à travers le personnage de Deb, qui est la voisine hippie, on revit le mouvement hippie, on revit la guerre du Vietnam. Elle va avoir un petit ami sur place qui est un photographe, qui est allé en Irak. Donc on parle du monde et donc c'est pas seulement centré sur l'Amérique profonde, c'est cette ouverture, cette générosité. Et puis elle a un talent que je trouve assez dingue, à la fois d'arriver à avoir une vision, de raconter la nature de cette façon avec beaucoup de verve, beaucoup de sensibilité. Et c'est ces moments d'émotion qu'elle arrive à distiller très souvent en fin de chapitre, un peu comme dans ses nouvelles, qui fait que ce roman est vraiment un roman aussi qui touche au cœur, ce qui est très bien pour la Saint-Valentin. Je suis content de parler de ce livre. Donc moi, je recommande cet ouvrage, qui est un roman choral, hein, avec plein de personnages de différents qui parle et qui se balade aussi dans le temps. Donc c'est assez virtuose, tout en étant assez simple et assez naturel, assez évident.
Les femmes de Hot Spring Mountain de Robin MacArthur, chez Albin Michel, dans une traduction de France Camus Pichon.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Dernier livre à notre sommaire, Je suis né quelque part. Où peut-on se sentir chez soi, de Daniel Schreiber, publié chez Autrement, dans une traduction d'Alexandre Plateau. Daniel Schreiber, petite quarantaine, journaliste, critique d'art, essayiste. On lui doit une biographie de Susan Sontag, un livre sur sa propre addiction à l'alcool. Et donc, je parle de Schreiber, pas de Susan Sontag. Aujourd'hui, traduit en français cet essai, basé à la fois sur ses propres réflexions, sa propre vie, concernant la notion de foyer, ou plutôt d'un chez-soi. Donc, on verra notamment combien les mots sont souvent chargés d'histoire quand il s'agit de désigner le lieu que chacun peut créer par soi-même, pour soi-même. Trouver un lieu où s'enraciner, pourquoi cela compte-t-il autant? Et quel est le véritable sens de cette expression, se sentir chez soi? Le sentiment du foyer est une émotion paradoxale. Partie intégrante de notre existence, il est tellement essentiel que nous n'y pensons pour ainsi dire jamais, à moins que nous n'y soyons forcés. Ce sentiment peut se rattacher à un endroit précis, parfois à plusieurs lieux, mais il s'étend souvent bien au-delà. si notre conception d'un chez-soi évoque bien plus d'images, de souvenirs et d'attentes que beaucoup d'autres sentiments, il est difficile de l'appréhender par les mots. Alors, il est peut-être difficile d'appréhender par les mots, mais il en fait quand même 197 pages pour parler comme Philippe Chevrier. Daniel Schreiber, Florent Georgesco va commencer à nous dire à quoi ressemble ce livre.
Justement, c'est toute la question.
C'est presque une entorse, hein, parce que normalement, on ne fait pas d'essai dans cette émission, ça ne vous a pas échappé.
Oui, mais...
C'est un essai...
Moi, il se trouve que je m'occupe d'essais dans mon journal, et parfois, je tombe sur
Personne
ce genre...
Parfait.
Vous l'aviez remarqué, quelques défauts. On tombe, en lisant les essais, sur parfois des livres qui sont tout à fait en dehors de toute catégorie. Et c'est justement à quoi ressemble ce texte, c'est vraiment une des questions qui m'ont intéressé en le lisant. Parce que c'est une forme extrêmement intelligente, subtile et puissante de réflexion et de récit de soi, de manière d'avancer l'un par l'autre, l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre en permanence, de poser des questions extrêmement simples, extrêmement universelles et communes presque, à travers sa vie et à travers un certain nombre d'auteurs sur lesquels il travaille, enfin qu'il cite, qu'il traverse, toujours très légèrement. Et comment, en accumulant ainsi des éléments qui tous sont extrêmement simples, on arrive à donner une ampleur, une grande profondeur à une réflexion qui, en plus, finit par avoir une force universelle extrêmement grande. Ce qu'il raconte, c'est la vie d'un jeune homme d'aujourd'hui, très aujourd'hui, très mondialisé, très contemporain. Il vient d'Allemagne, j'y reviendrai peut-être, enfin en tout cas on en parlera sans doute, de son origine en Allemagne de l'Est en l'occurrence. Mais il part très jeune pour New York, il a une bourse pour étudier à New York, c'est là qu'il écrira sur Susan Sontag. Ensuite il vit entre Londres, Berlin, les États-Unis à nouveau très régulièrement. Il bouge partout et... Comme tant de gens de sa génération, il est un jeune intellectuel mondialisé, si vous voulez, extrêmement typique. Ce qui, chez lui, prend cette dimension supplémentaire, qu'il y a une volonté absolue de fuir une origine, un pays natal qui est un pays de cauchemar, parce que donc Schreiber est né en 1977 et qu'il a passé toute son enfance dans l'est de l'Allemagne, en RDA, dans un régime qui persécutait très particulièrement les homosexuels. C'était un enfant, mais comme il le dit lui-même, un enfant efféminé. Il dit, on pouvait deviner qu'il deviendrait homosexuel.
Il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il le soit.
Pour lui, je ne sais pas, mais en tout cas pour,
enfin, c'est ce qu'il dit
pour
de
tout
lui-même,
le monde autour
hein,
de lui. Et l'institutrice de son école, le village entier, ont organisé sa persécution de manière absolue, radicale. Il fallait rendre ce garçon à sa normalité. Les enfants en RDA appartenaient à l'État et l'État savait ce que devait devenir un adulte, et en l'occurrence, certainement pas un homosexuel. Voilà de quoi il vient, voilà son rapport à son pays natal. Et il fuit, il a une vie, semble-t-il, assez passionnante, assez vive et assez, et en tout cas dans le mouvement permanent. Et ce qu'il raconte, c'est comment naît en lui, peu à peu, par surprise, et vraiment d'une manière qui paraissait la plus impossible, le désir de trouver un foyer, le désir de la patrie, en quelque sorte, mais justement, va-t-on changer le sens de ce mot quand on vient de cette histoire-là? C'est un des enjeux du livre, et il fait ça de manière absolument profonde, puissante et bouleversante, par tout l'aspect très, très personnel du livre, mais aussi bouleversante au fond pour chacun de nous, parce qu'on est dans notre histoire, dans notre manière de repenser notre rapport à là où nous sommes, au lieu, au territoire, et ça charrie même toujours avec cette légèreté de touche des questions même politiques extrêmement importantes, puissantes, qui ouvrent des voies de renouvellement d'une pensée de l'habitation. Je vous vois sourire.
Non, parce que vous avez un art du discours. Je me demande toujours, j'attends qu'il y ait un point pour donner la parole.
Il n'y a pas de point. C'est ça.
Et en fait, vous avez l'art justement de développer une pensée extrêmement structurée. Hein.
C'est l'art du point-virgule, mon cher Arnaud.
Non, il n'y a même pas de point-virgule chez vous. Je connais bien le point-virgule. Elisabeth Philippe, premier regard sur ce livre de Daniel Schreiber.
Oui, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui a le mérite déjà d'être très limpide, très fluide. Et il y a vraiment une forme de navigation, c'est aussi une odyssée finalement, parce que c'est retourner chez soi, retourner à soi, et navigue constamment entre ces deux pôles qui sont aussi les deux aspirations de l'homme contemporain, enfin de l'être humain contemporain, à savoir tirailler entre d'un côté le besoin d'évasion qui est facilité effectivement par l'avion pas cher, par le système mondialisé, etc. Donc ce besoin d'ailleurs sans cesse renouvelé, et puis, enfin plutôt ce désir d'ailleurs, et de l'autre côté ce besoin de s'ancrer. Donc effectivement il y a cette dimension très universelle, très partagée, et puis il y a cet aspect plus particulier du jeune homme homosexuel pour qui la fuite va être la force motrice de l'existence. Et ça, c'est un thème que l'on retrouve dans énormément de livres d'auteurs homosexuels. Il cite d'ailleurs énormément Didier Ribon, Retour à Reims, évidemment. Mais on pourrait penser à Lagarce, Le Pays Lointain. On pourrait penser à James Baldwin, enfin à Édouard Louis aussi. Je pensais que je m'étais encore trompée de prénom, comme avec Liliane Bettencourt.
En tout cas, vous n'avez pas dit Émile Louis, bravo.
En tant qu'Auxerroise, j'aurais pu. Mais bien, alors...
Je ne savais pas.
Et on embrasse Giroud, qu'on aime.
Donc, il reprend ce thème de la fuite hors du foyer qui n'est pas un lieu de sécurité, contrairement à ce qu'il pourrait, à ce qu'il est pour la plupart des gens. Donc, lui... cherche à fuir, mais il va au-delà de ce thème que l'on retrouve, donc comme je disais, dans de nombreux livres, parce qu'il y a aussi quelque chose de très fort dans ce texte, c'est l'apaisement. Je trouve qu'il arrive à faire sentir. Il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation. C'est retourner chez soi, c'est retourner à soi, c'est se retrouver et c'est faire une sorte de paix aussi avec ce que l'on est, l'endroit d'où l'on vient, et tout cela est amené de façon extrêmement limpide, encore une fois. Et c'est vraiment un des très grands mérites de ce très beau texte.
Philippe Chevillier.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. J'ai vraiment beaucoup été très touché par ce livre. Et parce qu'en plus, il a cette dimension que ne laisse pas forcément supposer le titre, de nous emmener dans plein de directions différentes. Et c'est vrai qu'il y a un premier degré de plaisir de lecture lorsqu'il raconte déjà l'histoire de cette arrière-grand-mère. C'est presque un conte gothique et politique, puisqu'on se retrouve au nord-ouest de l'Ukraine, qui à l'époque était la Volhynie, russe, puis allemand,
lieu qui n'existe plus.
Voilà, des lieux qui n'existent plus.
Qui a eu 1000 identités et qui n'existe plus aujourd'hui, ce qui est pas anodin.
Ensuite, il y a ce récit douloureux de son enfance d'homosexuel dans cette volonté de le remettre aux normes dont on a déjà parlé. Il y a, d'un point de vue littéraire, un très joli vagabondage qui dans des villes, que ce soit Berlin, que finalement il va adopter alors qu'il est toujours en retrait et qu'il n'arrive pas à se sentir à l'aise, et puis il va y arriver finalement. Il y a Londres, où il a connu une déception amoureuse dont il parle très bien, et New York, donc il y a déjà ces aspects-là. Et puis évidemment, toute cette réflexion sur le foyer, avec une vision à la fois très érudite, puisqu'il cite beaucoup de gens, mais il y a aussi une vision ouverte et moderne, c'est-à-dire qu'on est dans ce monde nomade, donc il explique bien cette dimension de se dire finalement, ce foyer, il peut être n'importe où. Et puis en plus, c'est balancé, c'est-à-dire qu'il montre les limites aussi. On parlait de patriotisme tout à l'heure, défini d'une autre façon, mais ça pourrait, le foyer, ça peut être un retour réactionnaire, ça peut être une réaction de...
Évidemment, c'est un des grands intérêts du livre.
Et ce que je trouve très beau au bout du compte, c'est que ce que disait Elisabeth sur l'apaisement, c'est qu'on a, on a un livre de l'intranquillité pendant tout du long qui se termine sur une ode à la tempérance et à l'apaisement. Donc une forme d'happy end qui est vraiment très rassurant et qui ouvre des horizons pour tout lecteur.
Oui, parlons-en, parce que voilà un livre éminemment politique, je crois qu'on l'aura compris, contrairement au précédent.
Mais d'une manière qui n'est pas simpliste, lui.
Qui n'est pas simpliste, parce qu'elle est multiple, elle est mosaïque, elle est à l'image aussi du monde, parce que ça fait partie aussi de cette question. Pour être, si on est bien chez soi, ça permet d'accueillir l'autre, c'est quand même pas une dimension tout à fait innocente de nos jours, et que ce soit en Allemagne, enfin dans tous les pays occidentaux et dans notre Europe occidentale. Et moi, j'étais touché aussi. Mais c'est pour ça que cette légère entorse au choix de notre émission d'être normalement dans une littérature, on va dire, de fiction. Il y a une part personnelle de l'auteur, alors qui n'est pas du tout fictionnelle, hein, j'entends bien que c'est vrai, mais il y a une écriture biographique qui fait que ça rentre dans le champ de la littérature.
La pensée, ça s'écrit, enfin, il y a un enjeu littéraire de la pensée, comme on le voit dans un livre comme celui-là.
Même si, alors comme ça j'avais à introduire un bémol, la toute dernière page n'est pas ce qu'il y a de mieux quand il est vraiment...
Vous voulez dire les remerciements ?
Non, dans une tentative de littérature, on va dire. Mais on est tellement content de cet apaisement et de cette beauté des cicatrices, qui je crois est le titre du dernier segment du livre, qu'on n'en veut pas à Daniel Schreiber, parce qu'il nous a emmené aussi, nous faire retraverser, Bachelard, Anna Arendt, qu'on connaît plus ou moins. Pour les lecteurs, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat de philo pour ouvrir.
Non, justement, c'est au contraire un moyen de découvrir des pensées de manière extrêmement simple, en réponse à des questions que tout le monde peut se poser. Je citais Winnicott qu'il cite. Il cite le concept de la bonne mère, mais la mère suffisante. Il finit sur cette idée qu'il a cherché partout la vraie vie, et qu'en fait, il voulait, ça consistait à la remettre à plus tard, la chercher ailleurs, penser toujours à l'ailleurs, et en fait, se transpose dans le temps. C'est une manière d'aller chercher, de remettre à plus tard ce qui doit devenir la vraie vie. Il y a un moment où il faut accepter, dit-il, le fait que sa vie soit imparfaite, que c'est la meilleure vie possible qu'on puisse avoir, et une vie qui inclut, en fait, tous ces possible, toutes ces virtualités, toutes ces autres vies qu'on aurait voulu avoir et qu'on ne peut jamais accomplir totalement, et vivre avec, dans cet entre-deux et avec cette virtualité est une manière de réinventer le lieu sans s'y enfermer, en le réinventant comme liberté. Parce qu'en effet, il y a une dimension politique qui me paraît très importante, parce que on ne peut pas échapper aujourd'hui à cette question du territoire, de l'appartenance, qui revient très fortement et souvent très bêtement dans une caricature identitaire. Mais il faut bien comprendre qu'il est très bête aussi de négliger cette aspiration. Et ce livre-là est... une des voies programmatiques presque de réflexion sur ce que c'est que de réinventer sans croire qu'on va revivre comme autrefois, sans croire qu'on va recréer le village ancestral, mais quel village recrée-t-on ? Quelle maison recrée-t-on ? Sans renoncer à la liberté, sans renoncer à la force de la mondialisation, de la capacité de circulation, d'échange et d'accueil justement de l'étranger, c'est un des enjeux très importants de l'époque, et un petit livre comme ça, avec sa touche discrète, peut nous indiquer des voies.
Nous sommes d'accord. Voie qui suit, c'est celle de Philippe Chevillier.
Deux petites choses. La première, c'est pour revenir sur la beauté des cicatrices, l'idée que je trouve très belle, qu'on ne dépasse jamais vraiment ces traumatismes, qu'on ne referme pas les plaies, mais qu'on peut vivre avec, et qu'on peut vivre apaiser, ce qu'on disait tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est une réflexion que vous avez peut-être trouvée baroque, mais ça m'a fait penser, dans sa densité et dans le fait que ce livre s'ouvre sur plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé en l'ouvrant, à En camping-car d'Yvan Jablonka. C'est bizarre, mais c'est vrai que c'est un livre qui, pareil, quand je suis rentré dedans, je ne pensais pas qu'il allait m'emmener dans tant d'endroits différents. Et donc, ça procure le même plaisir de lecture.
Alors
même
si ça n'a rien à voir. Car on peut se douter qu'on va avoir du pays quand même.
Oui, certes.
Hein, c'est très juste. Il y avait dans le livre de Jablonka une réflexion sur la spatialisation de l'identité personnelle, en quelque sorte, à travers le camping-car, qui est assez proche des problématiques de Schreiber.
C'est certainement une thématique effectivement qui est très, très présente aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien, vous l'expliquiez, Florent. On pense aussi à Mona Chollet, qui a écrit, je crois, c'était Chez Soi, il me semble, le titre de son essai, aussi sur l'importance du foyer, de l'intérieur, ce qui, venant d'une penseuse féministe, pouvait surprendre, mais elle expliquait justement très bien. Donc je pense que c'est pas du tout une volonté de réhabilitation, mais c'est une façon de penser autrement le foyer. Et il y a des pages, effectivement, très... Je rebondis sur ce que disait Philippe dans sa première intervention, la façon dont il parle des villes, il parle des penseurs, et il y a notamment, quand il est à New York, il parle de la déception qu'il a à suivre les cours de Jacques Derrida, c'est assez amusant. Mal. Alors même que ce livre s'inscrit aussi dans la pensée derridienne, notamment de l'hospitalité. Tous ces éléments sont mêlés, brassés de façon, encore une fois, très fine et très simple à suivre.
C'est ça aussi. Dernier mot, Florent Georgescu, vous avez 30 secondes.
Peut-être pour dire que la pensée à laquelle la plus puissante à laquelle il aboutit, c'est la pensée de l'intériorité comme protection de la liberté, de la singularité.
Absolument.
Il a cette phrase très importante sur la gentrification des sentiments. Mmh. Il dit il n'y a pas que nos villes qui se gentrifient.
Exactement. Et l'effacement des mondes intérieurs.
Nos sentiments se normalisent. Ouais. Enfin, lui, qui vient de RDA, c'est... observer dans nos sociétés une socialisation de tout.
Il n'y a pas que les centres-villes qui se ressemblent.
Fond, chez soi, on peut vivre
comme
on l'entend, on peut être baroque, comme le disait Philippe, autant qu'on le veut, et on n'est plus soumis au regard de l'autre, c'est-à-dire de la société. Et là,
c'est pas pour rien que ça vient d'un auteur queer, je pense.
Oui, queer de RDA. C'est-à-dire, il sait très bien ce que c'est.
La minute
regard,
de vos 30 secondes est terminée. Je suis né quelque part.
On avait dit 2000,
être non. Chez soi de Daniel Schreiber, publié chez Autrement, dans une traduction d'Alexandre Plateau. Bon, c'est Alexandre Plateau. Oui. Le traducteur, ben j'ai mal écrit, donc pardon à lui et félicitations pour son travail. Bon, c'est l'heure du jeu de la dispute. Sarah Dion nous a rejoint, nous rappelle d'abord la question d'hier et nous donne enfin cette réponse que nous attendons tous, Sarah.
La question d'hier était: dans quelle série télévisée sur le milieu médical Jordana Spiro a-t-elle assuré le rôle principal? Et la réponse est de Mob Doctor.
Je ne sais même pas qui est Jordana Spiro. Alors, c'est formidable. On fait gagner ce soir des invitations pour découvrir l'exposition Courbet. Vous connaissez Courbet, dessinateur. C'est une exposition qui ouvre demain, qui se poursuit jusqu'au 29 avril au musée Courbet à Ornans. Allez-y si vous le pouvez. La question, Sarah?
De quel mouvement pictural Gustave Courbet était-il le chef de file?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page de la dispute, il faut que je me dépêche. Dans 19h, dispute série, on sera au Bel Air, le bar de la maison de la radio, avec Iris Bray, Lucille Como et Mathilde Wagman. Nous parlerons d'Il Miracolo de Niccolo Ammanati, Trou Détective Nick Pizzolatto, c'est la saison 3, Sex Education de Laurie Nunn, et puis mon coup de cœur qui saigne, hélas, à cause de la 7e saison d'Engrenage.